Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore les nouvelles façons de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast, on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marius, qui est développeur front-end. Salut Marius, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Salut, ouais, comme tu dis, je suis développeur front depuis 10 ans. J'étais beaucoup travaillé en télétravail, et j'ai quitté la ville il y a 4 ans de ça maintenant presque, pour être développeur en remote, en télétravail complet depuis la campagne. Et ça fait même un an et demi que je suis complètement hors réseau, donc sans eau courante ni électricité, et que j'ai continué à travailler quand même pendant un moment complètement hors réseau.
Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel genre de boîte est-ce que tu travailles, est-ce que ça a changé avant, après, ce genre de truc?
Alors moi, j'ai bossé essentiellement avec des startups. Et du coup, j'avais bien préparé mon départ off-grid, ce qui fait que quand j'ai aménagé sur mon terrain ici, la transition s'est faite comme papa dans maman, quoi. J'avais tout préparé en amont, donc j'avais ce qu'il fallait pour travailler en 4G, j'avais un bureau qui était prêt, donc ça a strictement rien changé dans ma façon de travailler, d'être d'une part à la campagne dans une maison, puis maintenant sur un terrain hors réseau complet, quoi.
Ok, et c'est du full remote ou est-ce que t'as certaines boîtes qui te demandent parce que je sais qu'à un moment tu faisais aussi des allers-retours sur Paris, il me semble.
Ouais, du coup là sur le dernier boulot que j'ai fait, donc j'étais 2 ans dans la même boîte. En début de boulot, j'y allais toutes les semaines. Donc j'ai choisi aussi d'être pas loin d'une gare TGV. Donc ça a forcément un peu limité mes choix dans mon emménagement et dans mon déplacement. Ce qui fait que je suis pas loin d'Angoulême, donc j'étais à 2 heures de Paris. Donc sur la première partie du boulot, j'y allais toutes les semaines, tous les lundis, je faisais les retours sur la journée. Et par la suite, j'y allais une fois toutes les 2 semaines, et j'y restais le lundi et mardi. Et après, avec le Covid, j'y allais plus du tout, en fait. Mais ça continuait à fonctionner correctement, quoi.
Ok, et du coup, depuis, tu y vas plus, en fait. Depuis cette histoire de Covid,
Bah, en fait, j'ai
vous n'avez pas repris le...
Non, non. Et moi, j'ai fait une rupture conventionnelle en novembre, donc je travaille plus du tout avec eux maintenant, et plus du tout dans l'informatique non plus maintenant, d'ailleurs.
Ok. Du coup, ça m'intéresse de savoir au niveau du setup, parce que off-grid, c'est quand même assez foufou. Comment ça marche? Comment est-ce que tu arrives à... Bon, du coup, 4G, j'imagine, si tu as la 4G qui passe. Et après, t'as des panneaux solaires, c'est ça?
Ouais, du coup, c'était un des critères d'achat du terrain, d'être bien situé en 4G. Là, j'ai trouvé la perle rare où je suis en haut d'un hameau où j'ai l'antenne 4G qui est à 2 km en ligne droite. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. J'ai une box 4G Bouygues qui est complètement illimitée. J'ai commencé en me disant, ouais, je vais prendre juste un forfait 4G chez SFR de 100 gigas, ça coûte pas cher, etc. En fait, dès que tu consommes un petit peu de YouTube, Netflix, etc., ça va très très vite.
Ouais.
Ce qui fait que je suis passé sur de l'illimité, ça me coûte 40 euros par mois, ce qui est pas beaucoup plus cher que ligne ADSL ou fibre classique, en fait. Et pour ce qui est des panneaux solaires, je me suis suréquipé, en fait, quand je me suis installé. Parce qu'à l'époque, mon patron était pas mal inquiet de savoir que je sois off-grid. Il avait peur que,
ouais, tu
que j'ai pas de courant, machin. Après, c'est un bobo parisien qui quand il prend des vacances, il va dans une villa avec piscine, etc. et qui s'imagine pas que le monde tourne aussi sans être alimenté en nucléaire en permanence et qu'on peut vivre sans avoir une piscine chauffée, etc. Mais du coup, ouais, j'ai alors niveau technique, j'ai 4 panneaux solaires de 300 watts chacun, avec 2 grosses batteries de 110 ampères-heure chacune, ce qui me permet de faire tourner une machine à laver à l'eau froide.
Ok, ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'était un peu la contrainte. Je voulais pouvoir garder ma machine à laver. J'ai plus de frigo par contre, mais ça, bon, je n'ai pas besoin de frigo spécialement. En mangeant du frais régulièrement, il n'y a pas trop de soucis. Et après, pour alimenter un ordinateur, bah, ça consomme trois fois rien en fait. Donc, je suis sur un laptop
Ah, c'est ça.
qui consomme du 50 watts, un truc comme ça. Et ouais, en dehors de la machine à laver, en fait, j'ai pas besoin d'électricité, donc quand on réfléchit un petit peu, quoi.
Et du coup, ton setup, c'est quoi? C'est un laptop, t'as pas d'écran déporté, de trucs en plus, c'est juste un laptop tout simple
Non,
ou...
non, j'ai le laptop, j'ai un écran à côté, et
Ok.
après clavier souris en plus, plus le modem. Du coup, je pense que sur la conso totale, ça doit consommer, attends, c'est 12 watts pour le modem, une cinquantaine de watts pour l'écran, une cinquantaine pour le laptop. Donc ça
Ah,
fait
donc c'est pas
du...
tant que ça en fait.
Ah non, c'est vraiment ridicule. Si tu veux un PC fixe, un PC gamer, machin chose, qui consomme avec une Alim à 1200 watts, c'est sûr que ça marchera pas. Mais
Ouais.
si t'as un setup léger, y a pas besoin d'être équipé comme je le suis, quoi. C'est pas
Ok.
très contraignant au niveau électricité d'être autonome pour travailler, quoi. En tout cas.
Ok. Ok. Et du coup, t'as pas de problème non plus, tu peux faire avec ta 4G. Tu fais des calls, t'as pas de différence particulière avec moi par exemple qui suis en même temps moi j'ai pas une connexion très bonne mais avec un quelqu'un dans une grande ville c'est la même chose en fait.
Bah, en fait, là, j'ai même une meilleure connexion que certains qui sont en ville avec du
Ouais.
VDSL. Non.
J'imagine que t'as une meilleure connexion que moi en fait parce que moi je suis en Martinique avec un modem. Je crois que j'ai le plus cher de ce qui se fait en SFR, mais je suis à 30 mégas, quoi.
Ouais, mais je pense que
J'arrive
je
pas à faire
dois être.
plus.
J'ai pas de speed test sous les yeux, mais je sais que. Enfin, sur 1 an et demi de boulot ici, j'ai jamais eu de soucis de conf-call et de machin chose, quoi.
Ok. Et du coup, tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce que t'es parti à la campagne? Est-ce que c'était une volonté de prendre un peu de distance avec l'informatique, ou c'est juste que tu avais envie de changer de vie?
Y a un peu des deux en fait. Je pense que en fait, j'ai jamais trop aimé bosser dans des bureaux. Ça avait pas
Ouais.
beaucoup de sens en étant informaticien d'être collés les uns aux autres avec un casque sur les oreilles. Ça avait pas de sens. Du coup, j'ai quand même pas mal bougé entre Lille, Bruxelles, la région parisienne, etc. Et en fait, tu te rends compte à la fin que tu dépenses beaucoup de temps, d'argent, d'énergie quand tu es en ville, que tu peux t'économiser toi-même quand tu es à la campagne. Et ce qui fait que j'avais besoin de pouvoir prendre l'air facilement sans devoir aller chercher un parc, prendre un bus, un machin, et besoin d'un peu plus d'espace aussi. C'est un peu le contre-coup du télétravail, c'est que quand tu es chez toi tout seul, tu as envie aussi de sortir prendre l'air.
Ouais.
Et je voyais pas de raison de rester en ville juste pour le travail en fait. C'était pas ça coûtait trop cher, que ça soit physiquement, humainement et financièrement, ça avait plus de sens, quoi.
Et du coup, tu bosses toujours de chez toi tout seul, ou est-ce que de temps en temps tu vas, je sais pas, à Angoulême par exemple, dans un espace de coworking pour rencontrer des gens, ou plus du tout?
J'ai essayé une fois le coworking par ici. En fait, Angoulême, ça fait quand même 3 quarts d'heure de route, donc
Ouais, quand même, ouais.
ouais, donc c'est pas hyper rentable ni hyper intéressant de te faire 1 heure et demie de route, voire 2 avec les bouchons juste pour le télétravail. Et j'avais trouvé un coworking à la campagne, pas très loin de chez moi, mais qui était avec des gens qui sont pas du tout dans le même état d'esprit, qui étaient très entrepreneurs partis à la campagne, qui fait que ça c'était pas, enfin j'avais pas accroché avec les autres
Ouais.
gens, donc j'ai pas renouvelé l'expérience. Mais il y a quand même quelques coworking pas loin et qui sont accessibles, qui sont à peu près au même tarif que le coworking en ville, si je me souviens bien d'ailleurs.
Ok.
Et voilà. Après, j'ai des copains qui sont venus aussi passer quelques jours et du coup qui télétravaillaient avec moi aussi. Donc c'est l'avantage d'être à la campagne, c'est que tu peux accueillir des gens facilement et que même avec une box 4G, on peut travailler à plusieurs dessus, quoi.
Ah, c'est ça, en fait, tu fais l'inverse, c'est des potes qui viennent, t'accueilles tes potes facilement,
C'est ça.
tu peux bosser ensemble ou pas d'ailleurs, ça met un peu de... Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, est-ce que tu disais tout à l'heure que ton patron, il avait tiqué un peu quand tu lui avais dit que tu partais ou que tu partais en off-grid. Est-ce que déjà tu bossais avec lui avant de partir en Dordogne ou tu... Quand t'étais déjà avec dans cette boîte avant, quoi.
Ouais, du coup j'ai signé chez eux quand j'étais déjà en Dordogne. Donc j'étais D'accord. déjà dans une maison en Dordogne, donc j'avais du VDSL, donc j'avais une meilleure connexion maintenant qu'à l'époque. Et après, je pense que je te dis, c'est qu'il y avait vraiment un gros décalage entre. Enfin, on n'était pas dans le même monde, lui et moi, donc je pense qu'il ne pouvait pas s'imaginer que déjà habiter à la ouais. campagne, il ne savait pas ce que je faisais le week-end, tu vois. Donc c'était... Je pense que lui, la campagne, c'est au mieux, mais nulle part, il y a des vaches autour et c'est tout. Et il n'y a pas de. Il ne s'imaginait pas qu'on puisse vivre à la campagne, en fait, et continuer à travailler. Déjà, je pense que rien que le fait que je fasse la route pour venir toutes les semaines, il n'y croyait pas non plus au début. Donc.
Donc ouais, du coup, ouais, c'est ça. Comment t'as trouvé ce boulot-là? Tu l'avais trouvé comment? Et est-ce que ton patron, quand tu lui as dit que tu voulais du remote et que t'étais en Dordogne, il a ça a été ou il s'est dit ah ok, tant pis?
Bah du coup j'avais trouvé. Alors je sais plus sur quel site c'était. Enfin sur une des moult job boards qu'il y a toujours. Ça devait être Welcome to the Jungle ou une autre, je sais plus.
Ok.
Et chercher essentiellement des boulots qui proposaient du remote en fait. Donc,
ok.
Donc c'était une des conditions pour que je signe chez eux. En fait, ils étaient quand on a commencé, on était 8 et ils avaient l'habitude entre guillemets de bosser en remote. Donc ça les choquait pas que je sois en remote non plus. Et donc ça a commencé comme ça. Et après le projet d'achat s'est un peu intercalé dans le fait que je bossais chez eux. Donc c'était pas Donc je leur ai juste annoncé que voilà, ça allait être comme ça et que ça allait pas changer grand chose pour eux de toute façon, et ce qui a été le cas. Ouais. Et donc sur le fait que je sois en remote, c'était bon, ça le choquait pas au début. J'ai passé une semaine quand même à Paris. J'ai commencé je sais plus quand. Enfin, je crois que j'avais commencé en novembre et du coup j'ai passé une semaine en décembre histoire de me familiariser ouais, un peu plus avec l'équipe, etc.
Ok.
Et voilà, après ils avaient pas trop de soucis avec ça, ils sont 5 cofondateurs, il y a une des cofondatrices qui était à Annecy, donc qui était en okay. remote aussi tout le temps. Et ils avaient l'habitude aussi de faire du remote en bossant de chez eux de temps en temps pour pas être.
Ouais, c'est la question que je te posais en fait, parce que souvent les boîtes sont ok pour faire du remote, mais c'est souvent des gens qui habitent dans des grandes villes, qui sont même des fois dans la même ville, ou dans, tu vois, il y a des gens à Paris, des gens à Lille. Et quand tu leur dis, mais moi, en fait, je suis à 45 minutes d'une grande ville, et je peux venir une fois par semaine, mais pas beaucoup plus, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boîtes qui disent, ouais, ok, pas de souci. Parce qu'il y a, bah, y a finalement pas tant de grosses boîtes que ça, quoi, qui aiment vraiment full remote, quoi.
Après, je pense qu'ils étaient enfin, souvent, ils sont en début de start-up, et ils avaient pas boult et boult candidats non plus, donc.
Ouais, c'est ça.
Je pense que mon CV était convaincant, et que dès le début, je leur ai dit, je les ai rassurés sur le fait que je peux aller à Paris facilement, en fait, parce que c'était une des conditions quand j'ai acheté ici de pouvoir. À l'époque, je voulais encore pouvoir me déplacer facilement. Et même financièrement pour eux, ça leur coûtait pas très cher de me payer le train pour venir bosser, quoi.
Et du coup, tu faisais au moins une fois par semaine, c'est ce que tu disais, quoi. Ouais. Tu faisais un aller-retour par semaine au début, puis après un aller-retour tous les 2 semaines.
C'est ça.
Et tu faisais quoi pendant cette, ça servait à quelque chose d'aller voir une fois par semaine ou?
Absolument à rien, non. Parce que du coup, j'y allais le lundi pour le jour des réunions. Voilà.
Ok.
Bah après, quand je faisais 2 jours, c'était cool parce que je pouvais quand même aller boire un coup avec les collègues aussi. Mais ouais. Au début, ça servait à rien, parce que du coup, je partais de chez moi le dimanche pour prendre le bus pour aller à Angoulême. Bon, je dormais à Angoulême, du coup, j'avais le temps d'aller au ciné, d'aller au resto, etc. J'en profitais un peu pour ça aussi. Et je prenais le train tôt le lundi matin. J'arrivais à Paris, il était 10h30. Et je repartais du bureau à 17h. Et le temps de dire bonjour, prendre un café, il était l'heure de manger. Et puis l'après-midi, c'était réunion, et puis... Non, ouais. sur les faits, ça servait à rien que j'y aille physiquement, quoi. C'était pour le principe, ils voulaient que tout le monde soit là le lundi pour la réunion. Mais...
Ouais, c'était du contrôle, tu crois? C'était une façon de vérifier que tu étais toujours motivé ou de...
Je sais pas, je pense que c'est qu'ils ont, ils avaient pas non plus l'habitude d'avoir quelqu'un aussi loin, je pense, donc ça devait l'inquiéter ouais. aussi dans un sens. Mais du contrôle, ouais, je sais pas, parce que, enfin, mon boulot, il était fait, il était contrôlé. enfin, on avait GitHub, machin chose, Slack, donc si vous voulez contrôler le boulot, c'était pas lui qui le faisait, c'était le CTO. Et puis si je bosse pas, ça se voit, quoi. Il y a pas de...
C'est clair. Et du coup, t'as arrêté cette boîte-là de bosser pour eux en novembre dernier, c'est ça?
Ouais.
Et depuis, t'arrêtes de faire de l'informatique?
Ouais. Je le garde sous la main dans un coin si j'ai besoin de sous un jour, parce que je peux trouver des missions assez facilement. Mais ouais. Je pense que je suis à un stade où ça fait 10 ans que je suis assis sur une chaise devant un écran. Juste, je m'y retrouve pas, en fait. Je vois pas d'évolution dans mon métier, à part passer lead développeur ou directeur technique, ça changera pas ma vie, sauf que je serai peut-être payé plus, mais je serai quand même assis devant un écran. Et là, je sais pas, moi, j'ai un terrain aménagé, j'ai des trucs à faire, c'est juste pas... Enfin, je trouve pas de sens, surtout que je vais bosser dans des startups qui vendent tous la même chose au final, qui sont assez peu avec les mêmes gens tout le temps. Ça ne m'intéresse plus, quoi.
C'est marrant parce que, tu sais, dans le milieu des développeurs, il y a beaucoup cette histoire de « je vais tout arrêter pour aller élever des chèvres ». C'est un truc qu'on entend souvent. Et en fait, toi, tu l'as fait, quoi. Donc, tu vas
pas
aller
élever
des chèvres.
J'ai pas encore de chèvres, mais presque, ouais.
mais tu vas élever des abeilles, c'est un peu comme des petites chèvres.
Ouais, elles sont plus nombreuses et plus bruyantes et plus dangereuses aussi, mais... Non, les chèvres,
ouais, c'est
prévu, mais il faut que je clôture correctement d'abord. Et je veux pas les élever, mais j'en aurai une ou deux pour arriver jusque là, quoi, pour faire pousser des chèvres pour de vrai, quand même.
du coup, ouais, ok. En fait, tu montes une boîte qui est vraiment orientée agriculture, on va dire, et accueil aussi. T'as dit que tu faisais de l'accueil.
Ouais.
Tu vas accueillir des touristes, en fait, c'est ça?
C'est ça. L'idée, c'est de faire de l'hébergement insolite. Donc là, je suis sur une grande tente de 20 mètres carrés, une tente Touareg, qui est sur un terrain isolé, qui est off-grid aussi, du coup, avec un petit panneau solaire, toilette sèche, etc.
Okay.
Avec une douche chaude, parce qu'apparemment, les bobos, quand il n'y a pas de douche chaude, ils viennent pas, finalement. Et voilà. Et l'idée, c'était... en fait, c'est parce que j'ai quand même eu des collègues avec qui je discutais qui je me rendais compte qu'ils ont besoin aussi de s'évader des fois,
ouais,
et de voir d'autres choses, mais qu'ils ont quand même besoin de confort finalement. Donc l'idée, c'est de proposer un hébergement confortable, mais isolé et vraiment dépaysant, quoi.
Ok.
Et voilà.
Et du coup, tu gardes sur le côté, au cas où, tes compétences de dev, comme ça, si tu as besoin de compléter ton activité agricole, on va dire.
Voilà.
Tu peux faire quelques missions et tout ça, quoi.
C'est ça. Après, j'aimerais bien trouver, dans l'idéal, une mission qui fait 4 jours par semaine pendant 6 mois, des trucs comme ça, mais je cherche pas, quoi. Je le garde dans un coin parce que je me dis que ça me ferait un petit pactole de côté, mais j'envoie des CV de temps en temps, mais j'y vais à reculons, j'ai pas vraiment envie.
Et tu pourrais pas trouver, je sais pas si ça existe, des trucs qui te rémunéreraient à la tâche, mais qui soient pas un taf de 4 jours par semaine, mais un truc où tu peux bosser 2 jours, tu fais un peu, et puis tu reprends quand t'as besoin, quoi.
J'ai déjà trouvé ce genre de micro-job, mais c'est des micro-jobs un peu abrutissantes, c'est faire des petites traductions, des trucs ridicules, etc. Et j'avais discuté une fois avec un mec il y a quelques années au Québec qui prenait des prestats pour faire ce genre de trucs. Généralement, c'est vraiment le fond de la presta où tu fais du debug, des trucs débiles, etc. Et j'ai déjà du mal à me remettre sur de l'intégration ou du front. Du coup, c'est pour faire des trucs abrutissants. Après, ça peut être intéressant de décorréler complètement le côté plaisir que je peux avoir à bosser et de me dire c'est abrutissant mais je suis payé correctement. Il faut être payé correctement sur ce genre de micro-tâches et du coup c'est pour être payé 3 centimes par tâche.
Ouais.
Je préfère vendre des journées à 500 euros et en chier pendant 6 mois que de faire des trucs à 3 centimes, quoi.
Ouais, je comprends. Ouais, tu peux avoir des trucs avec À la Upwork là, mais effectivement Upwork tu vas être en concurrence avec des Indiens et du coup le coût de mission il va être probablement ridicule.
C'est ça.
Ok. C'est hyper intéressant. Effectivement, je pense que t'es un peu le fantasme de je vais élever des chèvres, je me barre. Je trouve ça cool. Est-ce que t'aurais des conseils pour un développeur junior qui veut basculer sur du remote, parce que t'as quand même une grosse expérience du remote? Et ensuite des conseils pour quelqu'un qui en a marre de la vie urbaine et qui veut se barrer quoi. Donc peut-être d'abord le junior.
Ouais, bah pour un junior qui veut faire du remote, il n'y a pas de secret, hein. Je pense qu'il faut s'équiper un petit peu. Et puis après, il faut se vendre en disant dès le début je veux faire du remote, parce que si tu essaies de négocier après, ça c'est un peu ouais. Le truc classique, hein. Tu dis en entretien oui j'aimerais bien faire du remote plus tard, et puis le plus tard il arrive jamais. Il faut dire bah je veux faire du remote, voilà, point. Que ça soit 4 jours par semaine ou 5 jours par semaine, que ça soit clair dès le début et une condition à l'embauche. S'équiper un petit peu, avoir un casque correct, un micro correct, une bonne chaise de bureau, c'est important. Après, l'astuce ouais. La chaise de bureau, c'est que tu la fais passer en deux frais auprès de ta boîte. Hein. Si tu vas pas dans un bureau et que t'as pas de place chez eux, ils peuvent bien te filer une chaise à 200 balles. Ça se négocie aussi. Et puis voilà, je pense qu'il y a suffisamment de boulot et d'offres pour pas se casser la tête à bosser dans un bureau quand on n'en a pas envie aujourd'hui. Mais faut.
Toi, t'as jamais eu de problème pour trouver du taf en remote?
Non. Je pense que non, parce que j'ai quasiment tout le temps fait du remote aussi. Et après, une fois que sur ton CV il est marqué remote et que des expériences significatives, et que ton nouveau patron peut appeler un ancien qui lui dit bah en remote ça a bien marché, il n'y a pas de raison. Après, c'est sûr qu'il faut pas se foirer. Si tu fais le guignol et que tu fais rien de tes journées dans ton hamac, ça va se voir et ça t'aidera pas après. Mais non, après, je pense que déjà si tu cherches des offres en remote, t'auras des gens en face de toi qui sont éduqués au remote et ça passera mieux. Après, si tu vas avoir une USS2I en disant bah je suis junior, je veux faire du remote, ça se passera peut-être pas pareil, quoi. Mais
faut ouais, c'est sûr que non. Ouais.
Sélectionner ses offres et puis dire connaître dans quelles conditions tu veux bosser, quoi. Si tu peux aller une fois de temps en temps au bureau, tu leur dis. Et puis voilà, il n'y a pas trop de
okay.
d'autres solutions. Voilà.
Et sur la migration en campagne off-grid, du coup, tu disais que pour le off-grid particulièrement, t'as fait attention quand t'as choisi ton terrain, d'avoir une bonne exposition 4G et d'être relativement près d'un TGV. Est-ce que t'as des conseils pour quelqu'un qui voudrait partir à la campagne et partir à la campagne off-grid?
Bah, je pense que ouais, c'est ça. Faut regarder si t'as envie de pouvoir retourner. Enfin, si tu veux faire une transition en douceur, c'est bien d'être à moins de 2 heures de Paris. Parce que ça va rassurer ton employeur s'il veut que tu sois de temps en temps au bureau. Après, il y a des boîtes qui sont 100% ouais. remote et qui s'en foutent que tu sois à l'autre bout de la France.
Ouais.
Voilà. Et après, ouais, bien vérifier quand tu vas choisir ton terrain que tu es exposé correctement au soleil aussi si tu veux avoir des panneaux solaires. Et puis regarder la carte de 4G, voire de la 5G maintenant, qui est de plus en plus accessible en campagne aussi. Et ouais, si possible, avoir l'eau courante sur un terrain, parce que c'est vraiment une galère d'être off-grid sans eau, c'est le truc le plus chiant, quoi. Quand tu dois monter un réseau de plomberie tout seul,
ouais.
sans avoir de pression, pour peu que t'aies pas de soleil pendant 5 jours, t'as plus d'eau non plus, parce que ta pompe, elle a plus de jus. Voilà. À choisir, et trouver s'il faut un terrain avec rien dessus, tant qu'à faire, prendre un mobil-home qui est déjà à peu près en bon état, de l'eau, et comme ça t'es déjà quasiment posé, t'as pas trop emmerdé. Mais j'ai dû retaper ma caravane pendant des mois, etc. C'est du temps que tu dis oui ça va aller vite, etc. Mais en fait, une fois que t'habites dans le truc, tu dois retaper ta caravane que t'es dedans, c'est des galères.
Ouais, c'est
quoi.
La galère.
C'est ça.
Ouais.
Et la plomberie, c'est une
galère.
Et
du coup, t'avais ce que tu disais, 2 heures de Paris. T'avais présélectionné des régions avant? Ou tu voulais absolument aller en Dordogne?
Alors, je voulais absolument aller en Dordogne, parce que c'est une région que j'aimais beaucoup, dans laquelle on était beaucoup allé en vacances avec mes parents. Okay. Et du coup, je connaissais plus le sud de la Dordogne qui est moins accessible, parce qu'il faut passer par Bordeaux pour remonter, etc. Ah
oui.
Et j'avais trouvé une maison en location un peu par hasard, pas loin d'ici, du coup. Et j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin, je dis bah je vais aller là-bas et puis voilà, j'ai trouvé un boulot, j'ai signé le lendemain le contrat pour pouvoir déménager vite et je suis parti quoi.
Ok. Ok.
Et voilà.
Bah écoute, super. Merci beaucoup Marius pour ton retour d'expérience. Ça fait super plaisir.
Bah, je t'en prie.
Où est-ce qu'on peut te contacter?
Bah, Instagram, c'est là que je suis le plus présent. C'est @m.a.ri.us. Et je suis aussi sur Twitter @notnark.
Ok. Bah, je mettrai le lien en dessous. Ça marche. Merci Marius.
Mais de rien. Merci à toi.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.